Bienvenue dans la saison 2 d'À l'écoute de sa voix, ou Alève pour ceux qui aiment les raccourcis. Alève, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. Je donne la parole à des personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. Leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore.
À l'écoute de sa voix, le podcast du coming out spirituel.
Et la vraie spiritualité, je crois que c'est ça, c'est se laisser porter par quelque chose de plus grand que soi. Ça peut être l'amour, ça peut être l'inspiration pour agir. C'est une alchimie, j'aime bien hein, l'alchimie yin-yang.
Je suis Christine Dejoigny et je me pose des questions sur la spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Charlotte de Silgi. Charlotte est coach alchimique. Elle le dit elle-même, sa raison d'être, c'est de partager des secrets puisés dans les sagesses anciennes, corroborées par la physique quantique, montrant que l'on peut transformer ce qui nous plombe en trésor de vie, d'harmonie et d'épanouissement. En mariant émotionnel, spiritualité et pragmatisme, elle accompagne les personnes en quête de sens à découvrir leur mission de vie. Pour Charlotte, nos épreuves et nos blessures émotionnelles sont des invitations de notre âme à oser nous mettre en mouvement vers nos domaines d'accomplissement, d'excellence et de plaisir. Elle est coach donc, mais pas que, elle anime des ateliers et donne des conférences. D'ailleurs, c'est en regardant sa conférence TED que j'ai eu envie de l'interviewer. Charlotte m'a accueillie chez elle avec ses grands yeux pétillants et remplis de douceur. Je garde le souvenir de cette interview comme un moment hors du temps, plutôt comme une conversation chaleureuse au coin d'un feu de cheminée. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par Charlotte vers votre monde intérieur. Elle nous parle de chrysalide, de la polarité positive de l'ombre et de désir d'âme. Voici son histoire. Bonjour Charlotte.
Bonjour Christine.
Alors Charlotte, qui es-tu ?
Ah, je suis une personne qui est fascinée par les mystères. J'adore tout ce qui est énigme. Ouais. Et en même temps, très intéressée par le sens de la vie. Hein, ça a été vraiment, je crois que c'est une de mes caractéristiques. Trouver du sens à tout ce qui arrive, et donc je le cherche. Parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'ai besoin de trouver une utilité et un sens aux choses. Et donc, quand on couple avec les mystères, ben voilà, j'ai envie de trouver du sens dans les mystères. J'ai vraiment envie, en fait, c'est ça qui m'anime, c'est de transmettre d'une façon simple les mystères sacrés de l'univers.
Qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ?
Depuis que je suis toute petite, j'ai envie d'être danseuse étoile.
Ouais.
Et aujourd'hui, je me surprends parfois quand je regarde des documentaires ou des films à la télé, quand une personne danse vraiment de haut niveau, j'ai mon corps qui se met à bouger comme si c'était moi qui faisais pareil. Et alors je crois que c'est pas un regret. Pas beaucoup de gens savent que vraiment j'aurais adoré être danseuse étoile. Aujourd'hui, je le vois d'une manière métaphorique, c'est-à-dire que je crois que j'ai envie que mon corps puisse s'élever dans le ciel, donc ça rejoint quelque part la spiritualité.
Quelle est ta première pensée au réveil ?
De quoi j'ai rêvé ? J'ai une conviction que les rêves sont nos guides vers notre réveil.
Ouais.
Et parfois même, je me dis, le rêve et la réalité et la vie et le rêve, on ne sait pas dans quel sens ça va, mais il m'est arrivé des expériences très particulières qui me montraient que y avait d'autres réalités possibles et que finalement la vie c'était un songe.
Et quand tu te réveilles, est-ce que tu notes tes rêves ? Est-ce que tu les consignes d'une façon ou d'une autre ?
Alors je l'ai fait pendant très longtemps et aujourd'hui je m'en sers plus comme un peu un stimuli dans ma journée. Tiens, cette atmosphère-là, ça me rappelle. Et souvent, il y a des corrélations entre ce qui m'arrive dans la journée et ce dont je me souviens de mes rêves.
Qu'est-ce que la spiritualité pour toi ?
Je crois que c'est le fait d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi, et en partie visible et en partie invisible. Je crois que la vraie spiritualité, telle que je l'ai comprise dans ma tête et dans mon cœur, c'est cette alchimie entre le monde du sensible invisible et le monde du matériel qui est plus tangible donc et qui est visible. Et beaucoup de sagesse disent ça. C'est l'esprit dans la matière. On dit l'âme agit, c'est l'âme qui agit dans l'action. Et la vraie spiritualité, je crois que c'est ça, c'est se laisser porter par quelque chose de plus grand que soi. Ça peut être l'amour, ça peut être l'inspiration, pour agir. C'est une alchimie, j'aime bien hein, l'alchimie yin-yang, oui. L'alchimie entre ce qui ne se voit pas, qui est un petit peu flou ou qui est carrément invisible, et qui est du monde du sensible, voire du sacré,
oui.
Du mystère, on pourrait dire aussi, et son utilisation joliment, hein, harmonieusement, dans l'action, dans la matière.
Alors tu parles justement d'utilisation, comment elle s'exprime cette spiritualité pour toi, au quotidien ?
Je dirais que c'est à la fois un cap et un cheminement. Mmh. Le cap, c'est un de mes rêves, c'est d'être suffisamment éveillée pour avoir la compréhension hein, de ces fameux mystères et éventuellement pouvoir les retransmettre à qui en aurait envie. Et c'est un processus parce que c'est une manière d'être aussi. Et dans nos vies occidentales, c'est parfois pas simple d'agir tout en étant, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, tout en étant connecté à ce plus grand que soi. Et soit on essaye de se détacher de la matière. En fait, on fait les deux sans alchimiser, en fait. Soit on essaye de se détacher de la matière en se disant « moi, je suis spirituel, je médite, et l'argent, ça m'est égal, le matériel, etc. » Et donc, là, on est dans le yin, en fait. On est dans quelque part de très subtil et dans l'esprit. Soit on est très matérialiste, très superficiel, très dans l'action, dans le faire, sans se préoccuper des émotions ou du monde sensible. Et je pense que les deux sont parcellaires et que le but du jeu, c'est d'alchimiser les deux, d'être à la fois dans l'esprit et dans la matière. Et c'est vrai aussi sur le résultat et le processus, c'est-à-dire d'être centré sur un cap, hein, une inspiration, une élévation, et essayer de le faire au quotidien, bien que dans la vraie vie, hein, quand on prend sa voiture, quand on fait la queue dans une grande surface, on pense pas forcément à la chose spirituelle. Donc une des aspirations, c'est vraiment d'incorporer au quotidien, dans toutes les petites choses, y compris quand on fait la vaisselle, parce qu'on peut très bien savourer avec ses doigts l'eau, la substance du liquide, etc.
Alors là, vous ne voyez pas Charlotte, mais comme elle s'exprime beaucoup avec ses mains, alors quand elle parle d'incorporer, elle fait vraiment le geste vers elle. Quand elle parle de savourer, vraiment, c'est... Parfois, je me demande si je ne vais pas faire un podcast vidéo aussi, parce que c'était très, très, très évocateur. Concrètement, aujourd'hui, dans ce que tu fais, dans ton business, comment elle s'exprime ?
Dans mon business, dans mon activité ?
Dans ton activité, business.
Alors, il y a deux aspects, parce qu'en fait, on va dire que j'ai deux business différents. L'un, c'est plutôt du coaching de vie, l'autre, c'est plutôt du coaching pro.
D'accord.
Dans le coaching de vie, c'est très important pour moi de tout ramener à la chose spirituelle, et je dirais même au désir d'âme. Moi, j'aime bien synthétiser toutes les découvertes que j'ai faites dans les sagesses anciennes par cette citation de Pierre Teilhard de Chardin. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une aventure spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant des aventures humaines. Et quand on reconnecte nos valeurs, nos envies avec ce désir d'âme, il se passe des choses hein, quand on prend un peu de hauteur. Donc dans les coachings de vie, j'incorpore ça presque à chaque seconde, pas tout à fait, mais parce qu'il y a des choses qui sont apportées, qui sont très dans le quotidien. Mais justement, l'idée, c'est de les relier au désir d'âme et à ce qu'on est venu éprouver et mettre en œuvre dans la vie. Dans mes accompagnements professionnels, c'est un peu plus délicat d'apporter ça d'entrée de jeu. Donc, c'est beaucoup plus progressif.
D'accord.
Hein, parce que c'est un sujet qui est un petit peu tabou, même si ça change beaucoup. D'ailleurs, je viens de quitter l'entreprise dans laquelle je travaillais à temps partiel, hein, parce que j'avais deux activités, une d'accompagnante et une dans le domaine de l'écologie dans un grand groupe industriel, avec des ingénieurs vraiment très brillants et très pointus, très dans la matière justement. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir il y a 3 ans à initier des séances de méditation pour eux. Et donc, ça a pris progressivement et j'ai vraiment été très heureusement surprise de voir que les gens s'ouvraient dans le monde de l'entreprise progressivement à ça. Alors, c'est pas tout facile, hein. C'est parfois un peu compliqué sur le plan administratif. On m'a demandé à plusieurs reprises, mais comment on s'assure qu'il n'y a pas de risque pour la sécurité, pour la santé, quel diplôme vous avez, etc. Ouais. La responsabilité du directeur est engagée si quelqu'un fait une syncope pendant la méditation. Ils étaient très branchés là-dessus, ce qui est normal pour une entreprise. Donc, c'était difficile d'allier là l'aspect hyper cartésien, hyper juridique. Dans la méditation, on n'a pas du tout envie d'associer ces choses-là. Mais ça fait partie de l'alchimie, de la matière et de l'esprit.
Justement, quand tu as décidé d'intégrer de façon très assumée ce côté spirituel. Comment ça s'est passé ?
Ah, il y a plusieurs ingrédients dans ma vie, hein, parce que j'ai commencé mon chemin spirituel très tôt.
Ouais.
Très très tôt, je pense, j'avais 6 ans. Quand j'ai commencé à me poser les premières questions sur le sens de la vie et qu'est-ce qu'il y a au-delà de la vie et tout ça. Et je me souviens très précisément d'un fait à 6 ans, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas d'importance. Il y a eu un élément déclencheur en 2004, donc on va dire que j'étais déjà en chemin concrètement dans les années 93, quand ouais. j'avais 25 ans, suite à l'assassinat d'un de mes amis. Où je me suis posé beaucoup de questions, parce que je l'ai entendu, en fait, au moment de sa mort, à distance. Et puis, moi-même, 10 ans plus tard, j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Donc c'est assez interpellant. Et cet épisode qui a été assez compliqué sur le moment, hein, on peut l'imaginer, c'était vraiment terrorisant. Ça m'a en même temps connectée pendant ce moment-là. J'étais connectée à plus grand que moi. J'ai bénéficié d'une guidance du monde invisible. Et je crois que c'est ça qui m'a sauvée. D'une part parce que j'ai été aidée et d'autre part parce que ça a décontenancé mon agresseur parce que j'étais en espèce de transe, en fait.
D'accord.
J'étais en transe mystique. Ouais. Dans un silence et une extase. Donc ça a été un catalyseur parce que du coup, c'est ce qui m'a propulsée sur un chemin d'écriture, puis sur un chemin d'accompagnant avec toujours cet éveil spirituel en toile de fond pour comprendre d'où on vient et ce qu'on est venu expérimenter sur cette terre.
Et comment ton entourage a réagi ? À ce coming out, à la façon dont tu avais de plus en plus l'exprimer.
Alors, en fait, je reviens un peu sur la question précédente parce que ça s'est fait très progressivement quand même. Mm-hmm. En fait, je suis quelqu'un qui, les gens trouvent ça bizarre aujourd'hui quand je le dis, mais avait très très peur de prendre la parole en public. Et là, mon coming out, il a été aussi de prendre la parole en public, c'est-à-dire d'exprimer, de dire ce que j'ai vécu, ce que je crois, de partager ça dans des conférences, des ateliers, etc. Et moi, ça a été un chemin d'une douleur pour oser prendre la parole, pour oser être dans la lumière. Parce que mon truc à moi, et c'est ce qui se voit d'ailleurs dans ma pratique, ma spécialité à moi, c'est l'ombre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir dans l'ombre ?
Mais
c'était un lieu refuge, hein. C'est ce que j'appelle la polarité positive de l'ombre. C'est qu'on en a une dextérité et donc on peut en faire des trésors. Et quelque chose de fabuleux. Et du coup, moi, j'avais la peur d'aller dans ma quête, qui est celle de la lumière, avec l'envie d'y aller, l'envie d'être en pleine lumière, forcément, si j'ai été dans l'ombre. Et en même temps, la terreur, parce que c'était pas coutumier, donc c'était une zone inconnue, une zone d'ombre, bizarrement, la lumière. Et donc, ça a été un long travail. Je dirais que ça a pris... J'ai dû commencer dans les années 99-2000, hein, ouais. à peu près. Et je suis toujours pas complètement à l'aise, hein. Mais voilà, donc ça a pris une bonne vingtaine d'années avant d'accueillir simplement le fait d'oser parler en public. Comment a vécu mon entourage ça ? Ils étaient en fait dans la progression avec moi.
D'accord.
Et avec parfois des peurs, mais tu parles de choses qui sont quand même très étranges. Tu crois pas que tu pourrais y aller plus doucement ? Et moi, j'avais l'impression d'aller déjà très doucement. Alors, pour être tout à fait honnête, parfois un peu d'agacement. Parce que j'ai aujourd'hui ce toc de tout raccrocher à la spiritualité systématiquement. Et parfois, on me dit, attends, quand il y a un embouteillage ou quand il y a un piano qui tombe sur la figure, attends, c'est pas de la spiritualité, c'est un fait. Donc, on va pas chercher midi à 14h, quel est le sens de tout ça. Et pourtant, moi, c'est ce qui m'anime. Donc, j'essaye de ménager la chèvre et le chou, de vivre les choses sans forcément bassiner mon entourage avec ça à chaque minute. Et notamment mon entourage familial propre. Enfin, très, 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 très proche, je veux dire.
Quels sont les peurs que tu as su dépasser pendant ton coming out spirituel, même s'il a été très très progressif pendant ces 20 dernières années?
La peur de la lumière, en fait, ça paraît bizarre de dire ça, hein, mais on dit souvent qu'on a peur de l'échec, qu'on a peur des choses négatives,
ouais, d'échouer, de tomber.
Et quand on creuse un peu, pour beaucoup de personnes, c'est la peur de réussir. Qu'est-ce qui va se passer si je réussis? Et donc moi, mon truc, bizarrement, je me rends compte aujourd'hui que une de mes grandes peurs, je l'ai évoquée à l'instant, c'était la peur de la lumière, la peur d'être en lumière. Hein, et c'est logique par rapport à mon vécu où il y a eu des choses qui ont dû être cachées pour des raisons de sécurité et pour plein de raisons. Donc il y avait ça, la peur de la lumière. Aussi, il y a la peur de l'inconnu. qu'est-ce qui va se passer si je sors de ma zone de confort Voilà, donc ça, je pense que je l'ai bien dépassé. J'adore l'inconnu, j'adore les mystères. On a souvent peur, hein, comme disait Carl Gustav Jung, on a souvent peur de ce qu'on désire. Hein, et derrière la peur, souvent, il y a un désir caché. Et derrière le désir, souvent, il y a une angoisse, un stress qui est associé. On veut, mais on a peur d'y aller. Hein, comme s'il y avait des freins. Et d'ailleurs, dans ma pratique, une des actions ou des propositions, c'est de désactiver la peur qui est associée au rêve. Mmh. Parce que c'est très souvent le cas, c'est pour ça qu'on procrastine. Ouais. C'est pour ça qu'on se dit, quand je serai grand, je le ferai, ou quand j'ai déjà de l'argent, je le fais. Parce qu'en fait, il y a une peur qui est souvent très inconsciente, ouais, qui nous empêche d'accéder à nos rêves. Et puis, une peur que j'ai aussi dépassée, c'est la peur du groupe.
Du groupe ?
Oui, la peur du collectif, la peur de la foule. Mmh. Et une difficulté et une non-envie surtout de faire partie d'une foule. J'ai l'impression que j'allais être noyée ou ignorée ou pas à la hauteur, ouais, et peur de ce que la foule peut provoquer comme désastre. Alors même qu'elle peut provoquer des choses merveilleuses. Hein, j'aime bien voir la vie comme étant... on est tous quand même comme les pixels d'une image ou les sept couleurs de l'arc-en-ciel. On a tous notre diversité et c'est l'agencement, l'alchimie de tout ce que nous vibrons, hein, qui donne cette lumière ou la beauté de l'image, à condition que chaque pixel vibre à la bonne fréquence.
Très beau.
Et soit à la juste place. Donc j'ai transmuté en quelque sorte cette peur du groupe par un intérêt et une conviction que la diversité d'un collectif ensemble peut faire des merveilles. Elle peut faire les pires choses, mais elle peut faire aussi des merveilles.
Quelles sont les peurs, s'il y en a, qui te bloquent encore ?
Alors, si je suis tout à fait transparente, je dirais pas que ça me bloque, mais que c'est une peur que j'ai identifiée, qui serait une peur de pas être suffisamment à la hauteur de ce que les autres attendent de moi, ou de ce que moi j'attends de moi-même. Mmh. Et peut-être aussi de ce que j'attends des autres. Donc il y a quelque chose comme ça. Et puis je me suis rendu compte aussi, c'est assez récent, j'en avais pas conscience. Quand je dis c'est assez récent, c'est il y a quelques jours, que j'avais peur de l'argent. C'est-à-dire, on va pas rentrer dans les détails, puisque c'est vraiment quelque chose qui est allé à creuser en profondeur, mais j'ai reçu une somme assez importante pour moi il y a peu de temps. Bon, c'était pas non plus des milliers et des milliers d'euros, hein.
Mais c'est comme toi, tu l'as reçu.
Une somme que je reçois comme ça, et j'ai eu un petit moment de panique, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et c'est comme si c'était...
Moi, tu l'as pas. Mon Dieu, ça me brûle les doigts.
Et là aussi, ça peut paraître très curieux, parce que la plupart des gens disent « j'ai peur de manquer d'argent », mais si on a associé à l'argent quelque chose de négatif dans son enfance, que ce soit de la violence, que ce soit du vol, quelque chose de négatif, ben on a une croyance inconsciente qu'il y a quelque chose de négatif associé à l'argent, et du coup, on le repousse. Et c'est ce qui fait que souvent, il y a des personnes qui n'ont pas suffisamment d'argent parce qu'elles ont associé l'argent à quelque chose où il ne faut pas aller. Donc soit c'est de la traîtrise, soit c'est du vol, soit c'est du conflit, parce qu'on a associé l'argent au conflit dans notre enfance par rapport à notre vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on a aperçu. Voilà, donc je dirais que ce n'est pas bloquant, mais je sais que j'ai évolué là-dessus et j'ai pris conscience aussi que j'avais évolué, mais il y a sans doute encore des petites choses à nettoyer à ce sujet.
Quels sont les conseils que tu aurais aimé recevoir juste avant d'engager ce chemin vers la spiritualité au grand jour ?
Alors, c'est amusant parce que quand j'ai décidé de me mettre en quête concrète, j'ai demandé à quelqu'un qui était un peu un mentor pour moi, qui est un oncle, un éminent astrologue, morphopsychologue, acupuncteur, il s'appelle Jean-Marie Lepelletier. J'étais vraiment au désespoir, hein. J'étais au bout de ma vie, comme disent les jeunes, j'avais envie de mourir, c'était vraiment atroce. Et je lui ai dit, aide-moi, donne-moi un conseil. Et il m'a répondu, cherche et tu trouveras.
Ah oui.
Et je l'aurais, mais maudit.
Merci.
Et maintenant, longtemps après, hein, parce que ça fait pas loin de 30 ans, je comprends ce qu'il a voulu dire par là. Et pour autant, c'est pas forcément le conseil, enfin la phrase que je dirais moi, parce que sur le moment on la comprend pas, c'est un peu difficile à entendre, même si elle est très vraie. J'ai tendance à dire, ce que je propose aujourd'hui, c'est-à-dire commence à regarder ton négatif et envisage d'y trouver du positif. Ton négatif, c'est ce qui ne va pas dans ta vie.
Ouais.
Parce que c'est souvent là que se trouve la clé, c'est le propre de ma pratique.
Ouais. Quand tu parles du négatif, c'est les peurs, les blessures, c'est tout ce qui fait mal.
Simplement ce qui ne va pas dans ta vie. Regarde ce qui est négatif dans ta vie, que tu n'aimes pas, qui te provoque des émotions, des colères, des déstabilisations, des afflictions, des tristesses. Parce que ça a du sens. Et on commence par là, parce qu'on commence par soi, comme disait Socrate, Platon, ce qui était écrit en Grèce, sur le temple de Delphes. C'est connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc quand on veut entamer un chemin spirituel, comme le monde est le reflet de soi, le soi est aussi le reflet du monde, c'est comme une matière qui est à portée de main. Moi, j'ai commencé par parcourir le monde à la recherche du sens de la vie. Je suis allée en Chine, à l'autre bout du monde, pour trouver des clés. Et en fait, c'est rigolo d'ailleurs, parce que je me suis régulièrement perdue, soit en désirant me perdre pour m'amuser, soit par hasard. Les trois fois où je me suis véritablement perdue, c'était à l'autre bout du monde. Et à chaque fois, c'était le nom de ma rue.
Ah oui.
Et cette rue existe dans trois pays. En France, en Irlande, en Écosse... Et en Inde, ça m'a fait penser, se perdre, il faut plutôt se perdre, plutôt que d'aller aller dans son temple intérieur, aller en soi, c'est là que sont toutes les clés de notre vie, de nos mystères, de nos joies, de nos accomplissements.
Comment serait ta vie si tu devais renoncer à la spiritualité ?
Oh, c'est simple, pour moi ça serait ennuyeux, fade, bas. Je crois que une vie sans spiritualité, s'il n'y a pas de sens...
Ouais.
Ça m'intéresse pas, quoi. C'est ça qui est compliqué quand on vit dans un monde très matérialiste et qu'on est très connecté avec cette envie-là. Alors, ça peut donner des envies aussi d'initier progressivement. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je crois que je m'ennuierais à mourir s'il n'y avait pas ça.
Sans transition aucune, quel est le livre que tu as lu en étant enfant et qui t'accompagne encore aujourd'hui ?
Alors, c'est pas un livre qui m'accompagne encore aujourd'hui, mais les livres qui m'ont marqué quand j'étais enfant, c'était Tintin, s'il y a le droit aux bandes dessinées.
Ouais. Oui, bien sûr, tout.
J'adorais les Tintins. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas cherché à analyser le truc. Et puis, il y avait Oui. Alors, je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui connaissent ça.
Bah, je pense que Oui existe encore.
C'était la bibliothèque rose.
Bien sûr.
Et j'étais fascinée par ce Oui, ce petit bonhomme à qui il arrive des aventures, qui a l'air un peu candide. Et puis aujourd'hui, ou maintenant même, j'analyse juste le truc, parce que mon truc à moi, c'était non. La vie, c'est non, quoi. On n'a pas le droit. C'est non à soi, non au plaisir, voilà. Aujourd'hui, je travaille à l'affirmation de soi, donc c'est quand même rigolo. Mais je viens juste de faire, au moment où tu me poses la question, là, je viens juste de me rendre compte de ça. Sinon, aujourd'hui, un livre que j'ai lu il y a très longtemps et qui m'accompagne aujourd'hui, alors j'étais pas enfant, j'étais post-ado, je devais avoir peut-être 25 ans, c'est Dialogue avec l'ange, de Gita Malache. Qui a été assez marquant et dans lequel j'ai puisé un certain nombre de choses dans ma vie spirituelle, justement.
Quelles sont les trois personnes que tu aimerais rencontrer au cours de ta vie ?
Ah, c'est difficile parce qu'en fait, je crois que les trois personnes que j'aurais aimé rencontrer sont parties déjà. C'est des gens comme Jules Verne, Léonard de Vinci ou même Victor Hugo, c'est-à-dire des gens qui sont pour moi assez complets à la fois dans la science, dans la littérature, dans l'astrologie pour certains, dans l'art.
Il y a encore cette histoire de mystère.
Oui, il y a quelque chose de ça. Et sinon, de façon plus prosaïque, aujourd'hui, je serais enchantée de rencontrer un grand sage indien.
Ouais.
Un grand chaman indien. Dans le même registre, ça me ferait plaisir de rencontrer Mathieu Ricard.
Ouais.
Et puis Boris Cyrulnik. Parce que je trouve que c'est un personnage très inspirant et ma pratique est parallèle à la sienne. Il y a quelque chose de la résilience dans ce que je propose. En fait, quand j'étais petite, je voulais être neuropsychiatre. Et il est neuropsychiatre. Moi, j'ai pas pu pour différentes raisons. Et j'ai une fascination pour ces êtres érudits qui ont une grande science et qui, en même temps, sont dans le domaine du sensible, de l'émotion. C'est encore une alchimie du yin et du yang, la science et la conscience.
Tout à fait. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant, donc c'était neuropsychiatre.
Alors,
est-ce qu'il y en a un autre ?
Oui. En fait, j'ai été prise de passion pour Arun Taziev. Et la vulcanologie, c'était pour moi ce mystère des volcans, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi il y a de la lave et qu'est-ce qu'il y a en profondeur qui sort comme ça. Et c'est une métaphore assez intéressante aussi de l'humain qui a un feu énorme en lui qui de temps en temps sort et la plupart du temps est éteint. Alors tout dépend des personnes. Donc voilà, peut-être que c'est une métaphore de ce que j'aime faire, de ces coming out,
hein,
d'exprimer les trésors qui sont au fond de nous et de pas mettre un bouchon dessus parce que sinon
ça va exploser.
À un moment donné, ça nous revient dans la figure.
Si tu avais le pouvoir d'offrir 3 dons à un enfant qui vient de naître, lesquels tu lui donnerais ?
Le premier, je crois, ce serait de s'émerveiller de tout. De tout ce qui vient, même ce qui a l'air d'être un désastre. De tout prendre à l'émerveillement, comme si c'était une bonne surprise, comme si c'était quelque chose. Et c'est ce que font les enfants, d'ailleurs, hein, souvent. Mmh. Ils sont dans la découverte, sans jugement. Hein, c'est les adultes qui apportent ce côté jugement. Donc surtout de maintenir cet émerveillement, cette candeur, cette joie inconditionnelle. Aussi, je dirais, l'amour inconditionnel, l'amour de l'autre de façon inconditionnelle. Je crois qu'on en manque un peu sur notre planète. L'amour est très conditionnel, très conditionné souvent. Et puis un don un peu utopique, mais je pense que ça arrivera un jour et il y a certains sages qui, paraît-il, le font, c'est la téléportation. Alors moi, j'aurais adoré de me téléporter physiquement, hein, parce qu'en le rêve, en songe, en pensée, on peut se téléporter très facilement. Et la physique quantique montre que techniquement, c'est possible. Théoriquement, c'est possible plutôt.
Charlotte, as-tu une devise? Et si oui, laquelle?
Alors, ma devise, c'est une phrase, en fait, que j'ai piochée dans un livre de Richard Bach, qui a écrit Jonathan Livingstone, le goéland, mais il a écrit d'autres choses aussi, et notamment un petit bouquin que je vous recommande qui s'appelle Le Messie récalcitrant, qui est très métaphorique, très poétique, très profond. Et dans ce livre, j'ai pris une phrase qui est « Ce que la chenille appelle fin du monde, le sage le nomme papillon. » Et je trouve que c'est vraiment magnifique parce que bien souvent, hein, tout le monde, on a des coups durs, on a des épreuves et on a l'impression que c'est une catastrophe statique et qu'après, tout sera moche. Alors que bien souvent, c'est le prélude à autre chose. Et comme notre regard fait beaucoup, hein, si on voit la chrysalide comme la fin de la chenille, on voit la chrysalide comme la fin de la chenille. Si on le voit comme le début de quelque chose qui est en gestation et qui demande qu'à prendre son envol, rien que ce changement de regard, ça peut nous changer la vie. Hein, et donc, en observant nos crises, parce que la chenille, c'est une crise, hein, c'est de la chrysalide, plutôt, c'est de la bouillie de chenille, quelque part. Hein, c'est une période de mutation, de transformation qui n'est pas facile à vivre de la même manière que les transformations physiques, qu'on l'appelle accouchement, qu'on l'appelle adolescence, qu'on l'appelle ménopause, qu'on l'appelle vieillissement en général. C'est des périodes compliquées à vivre. Alors même que c'est des déclencheurs de renouveau, d'autre chose. Hein. Mais la période elle-même est compliquée. Mais changer son regard dessus peut faciliter l'advenue des possibles et accélérer en acceptant plutôt qu'en résistant. Si on prend la boxe, par exemple, qu'on a un adversaire et qu'on boxe, ben on voit qu'on appuie l'un sur l'autre et que ça crée une résistance. Le fait de s'affronter à quelque chose, de repousser quelque chose, en fait, ça crée sa présence douloureuse, hein, si vous voyez la métaphore. Alors que dans l'art taoïste, dans l'art, on va dire, plus oriental, on est plus dans le kung-fu. C'est-à-dire que quand il y a une énergie adverse qui arrive, on l'accueille, on la prend, on la repousse pas, on la prend et on en fait une puissance. Et c'est aussi ça que ça veut dire. Si on accueille les éléments désagréables, parce que de toute façon, pour beaucoup d'entre eux, on n'y peut rien, on n'a pas prise sur eux.
Bien sûr.
Si on les accueille comme étant, ben voilà, ils sont là. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça augure? Et possiblement, c'est du beau.
Qu'est-ce que tu emportes sur une île déserte?
Alors, mon chevalier, sans hésitation, mais je pense que ta question, c'était plutôt un objet.
Qu'est-ce que tu emportes? Qui tu emmènes? Comme tu veux.
Alors, l'homme que j'aime, ou les personnes que j'aime en général, si j'ai le droit à plusieurs...
Bon, allez, un bateau. Allez, on prend un cargo.
Je pense que c'est important d'être entouré des personnes qui nous aiment inconditionnellement et qu'on aime inconditionnellement. Donc, c'est une évidence que c'est ça. Et comme objet, alors ça serait un objet immatériel ou matériel, mais ça serait quelque chose qui a un lien avec la musique.
Ouais.
Donc soit un piano, soit un bol tibétain, soit un appareil qui permet d'écouter de la musique. Ça serait de ce registre-là.
Quelle est la rencontre qui t'a marquée dans cette vie?
Oh, il y en a eu plusieurs, mais je dirais que celle à laquelle je pense là maintenant, c'est Patrick Brensteinas. C'est un chimiste devenu alchimiste et qui a une éloquence, une rapidité d'élocution et d'une profondeur et avec un humour. Je l'ai rencontré sans lui parler, mais c'était à une conférence, ça devait être en 1999, à l'époque où il n'était pas encore très connu, enfin il est connu de certains milieux. Les 3 heures de conférence ont passé comme 10 minutes, tellement j'étais captivée. Et ça a été une guidance pour moi, et j'adore, c'est la langue des oiseaux, c'est une vie, une vision de la vie très, très positive, avec un travail sur soi, pour que le travail à l'extérieur de soi se voit, et c'est un peu ça la pierre philosophale en fait, c'est un prétexte, on le voit d'une manière très concrète et pragmatique, et paraît-il, puisqu'il y a des témoignages en ce sens, ça peut se faire, c'est-à-dire qu'on peut transmuter du plomb en or, mais pour le faire, il y a nécessité, et ça on rejoint la physique quantique, il y a nécessité que le même travail se fasse à l'intérieur de soi. Et c'est ce que j'aime faire moi. Hein, comment on transforme ce qui nous plombe en quelque chose de plus léger, de plus lumineux. En alchimie, on est plutôt dans la transparence, parce que en fait, l'or, bon, il y a l'or, mais c'est aussi la transparence, c'est-à-dire qu'on laisse passer la lumière. Et c'est aussi ça, accueillir ce qui vient, accueillir l'esprit, accueillir la spiritualité, s'effacer tout en agissant, mais en laissant l'âme agir par soi.
De façon plus terre-à-terre, plus triviale, quelle est l'appli qui est indispensable dans ton téléphone ?
Waze.
C'est venu tout de suite.
Waze, parce que je trouve que c'est fantastique de se laisser guider sans avoir à se tracasser quel chemin prendre. Mmh. Donc on peut aussi voir la métaphore du côté agréable de se laisser guider. Mmh. Et pour autant, se perdre, et d'ailleurs Waze nous fait nous perdre de temps en temps parce qu'il utilise des chemins très bizarres parfois, je ne sais pas si tu as remarqué. À la fois c'est très agréable de se laisser guider en étant très passif quand on veut aller à une destination, et pour autant c'est aussi sympa de se perdre parce que du coup on va dans des zones qu'on n'aurait pas explorées sinon. Donc si vous voyez la métaphore, on a un choix dans notre vie de prendre une autoroute très claire, très structurée et hop on y va, et parfois en faisant des pas de côté, inattendus, on découvre des trésors qui sont utiles et qui sont parfois plus jolis qu'une autoroute. Hein. Les sentiers de montagne et de campagne, parfois, sont plus sympathiques.
Quel est l'endroit sur Terre qui te ressemble ?
Je me sens très bien en Asie en général, notamment en Inde ou en Extrême-Orient, comme Chine ou l'ex-Indochine. Je dirais l'Asie. Il y a aussi l'île, une île.
Une île. J'ai cru que c'était la ville de Lille.
Non, pas la ville de Lille, mais une île.
Une île.
Je me sens très bien sur les îles.
Quelle est ta série télé préférée si tu regardes la télévision ?
Alors, je regarde pas trop la télé. En revanche, il m'arrive occasionnellement de regarder des séries. Et j'ai remarqué que celles que j'aimais et celles par lesquelles j'étais vraiment attirée régulièrement, c'était quand il y avait du voyage dans le temps. Donc, il y en a quelques-unes. Hein. D'ailleurs, on peut taper, par exemple, sur Netflix, on tape le mot-clé « temps » ou « voyage dans le temps » et on trouve toute une série de séries. Justement. Et j'adore quand il y a des paradoxes temporels. Là aussi, on est dans le mystère un peu. Mmh. Quand il y a des paradoxes temporels ou quand il y a... J'adore par exemple Outlander.
Ouais.
Quand il y a une médecin qui arrive avec la pénicilline au 17e ou au 18e siècle qui se fait prendre pour une sorcière, j'adore. Après les voyages téléportés.
Les voyages dans le temps, les voyages oniriques. Tout à fait. De quoi es-tu reconnaissante ? À quoi ou à qui as-tu envie de dire merci aujourd'hui ?
J'ai envie de dire merci à deux types de personnes. Il y a tous mes proches qui m'aiment inconditionnellement et qui m'aident à leur manière. Et puis, il y a aussi ceux qui m'ont blessée. Parce que même si sur le moment, ou qui m'ont fait du mal. Un, ils n'en avaient pas forcément conscience, pour certains. Et deux, c'est ceux qui m'ont fait le plus avancer. Les plus grandes douleurs que j'ai ressenties, c'est ce qui m'a permis justement d'aller dans ces investigations, dans ces quêtes. Mais pourquoi j'ai mal, et pourquoi j'ai ça, et pourquoi ça m'arrive, et de comprendre en quoi c'était signifiant sur mon chemin de vie par rapport à ce que je rayonnais moi-même de mes blessures anciennes. Et ben c'est ça, hein, la prière au Ho'oponopono, c'est remercier ses ennemis ou ceux qui nous font du mal, parce qu'ils sont des indicateurs de blessures qu'on a au fond de soi et qui sont pas encore prises en considération, soignées et transmutées dans leur versant lumineux. Donc voilà, ceux que j'aime, qui m'aiment,
ceux qui t'ont blessé
ou qui m'aiment pas.
L'entretien touche à sa fin, j'allais dire malheureusement, parce que je sens qu'il y aurait encore tellement de choses à approfondir, mais quel conseil t'aurais envie de donner aux personnes, tu sais, qui sont dans leur placard spirituel, qui pensent qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elles ?
En tant que coach, il me tient à cœur que les personnes trouvent elles-mêmes leur potentialité, et je suis là pour les guider du mieux que je peux. Je suis pas sûre d'avoir envie de donner des conseils, mais plus de poser des questions qui vont faire réfléchir et qui vont peut-être donner envie de se bouger et de faire des pas vers soi. J'aime bien cette question qu'on trouve dans Matrix. Est-ce que tu prends la pilule bleue ou la pilule rouge? C'est vraiment un choix. La pilule bleue, tu restes comme tu es aujourd'hui, c'est tranquille, c'est la zone de confort, il se passe pas grand-chose, mais au moins c'est apparemment sécure. Ou bien tu prends la pilule rouge, c'est vers la liberté, c'est vers la vérité, ta vérité. C'est vrai que ça secoue un peu. Et c'est vrai que c'est parfois un peu douloureux, mais quelle beauté. C'est parsemé, c'est sinusoïdal. Il y a à la fois des émerveillements et puis des coups de la transformation dont j'évoquais un peu tout à l'heure. Mais ça vaut vraiment la peine, quoi. Mais par contre, on a vraiment le choix. Si on n'est pas prêt, on reste dans sa zone de confort et c'est OK. Mais c'est à chacun de répondre à cette question. Il y a des personnes qui ont besoin et envie de rester au moins un temps dans cette zone de confort parce qu'ils n'y sont pas prêts. Et la zone de confort, malheureusement, souvent, elle est associée à des choses un peu douloureuses, mais on met un chapeau dessus, on les occulte.
C'est confortable.
Voilà. On connaît. Donc, l'aventure spirituelle, en tout cas celle que je l'ai comprise moi dans les sagesses, c'est le coup dur. C'est ça qui nous met en mouvement et c'est ça qui nous met en route pour être dans les héros. C'est le scénario de beaucoup de films.
Oui.
Il y a une situation X où il y a en général un papa qui est fâché avec son petit garçon ou avec sa femme, etc. Il y a un cataclysme, un monstre, un je ne sais pas quoi, un Dark Vador qui arrive dans l'histoire. Et du coup, on se met en quête de résolution du problème et ça résout, on sauve son monde et on sauve le monde et on sauve son monde. C'est-à-dire qu'on devient le héros de soi-même quand on se met en quête de soi. Donc, cette question-là, qu'est-ce que tu choisis comme pilule, la bleue ou la rouge? Et puis, c'est une question aussi que j'aime bien poser au début de mes accompagnements, c'est si tout était possible, mais vraiment tout, quel serait ton rêve? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir, sachant qu'il n'est pas question d'avoir des compétences, de l'argent, le temps, quoi que ce soit. C'est possible, ici, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais faire, être, devenir? Et là, cette question-là, Elle peut permettre de déclencher aussi des choses parce que ça peut donner un cap. Et puis, j'ai une autre question aussi qui est, qu'est-ce que tu aimerais, là, si tu te projettes et que tu es sur ton lit de mort, que tu sais que tu vas mourir dans l'heure, qu'est-ce que tu voudrais ne pas avoir à regretter? Alors, ça peut paraître un peu morbide, mais ça peut aussi remettre les idées en place. Parce que le temps file, mine de rien, son petit bout de chemin, là. Puis on dit, oui, ça, je le ferai demain, ça, je le ferai demain, on procrastine, etc.
Exact.
Et finalement, le temps file, et puis on se retrouve dans notre lit de mort, et on dit, ah, si j'avais su, j'aurais bien fait le tour du monde, ah, si j'avais su, j'aurais bien aimé faire du bénévolat pour aider, etc. Donc, ça rejoint la question, quel est le rêve, quelque part, ou même, quelle est la pilule que tu veux prendre? Est-ce que tu veux rester endormi? Et c'est OK, il y a vraiment le choix. Ou est-ce que tu as envie de grandir, de bouger, d'aller vers toi-même?
Même si ça secoue un petit peu.
Ça peut secouer. Mais le but du jeu, c'est bien d'aller vers soi et d'aller vers sa lumière. Donc, ça vaut la peine de faire des efforts sur soi-même, d'accepter d'aller dans ses zones d'inconfort, dans l'inconnu. Parce que même si c'est parfois assez inconfortable, voir que ça se coue, c'est comme les films, quoi. Ça va vers la mine d'or, métaphorique. C'est vers soi, c'est vers sa lumière, ses trésors, ses domaines d'accomplissement. Et c'est bien ça qui va nous mettre en mouvement vers l'harmonie, la paisibilité et notre accomplissement. Donc ne pas avoir peur de ce qui se coue, parce que ça fait des jolies paillettes.
Super. Je te remercie beaucoup, Charlotte, et je te dis à très bientôt.
Avec plaisir, merci beaucoup Christine.
Voilà, Alève, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet alecoutedesavoie.fr. Et voix, c'est V-O-I-E. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcasts afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à ce que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur alecoutedesavoie.fr. Vous pouvez découvrir aussi en avant-première la personnalité du prochain épisode sur le compte Instagram du podcast, alecoutedesavoie.podcast ou sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast revient dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous.